France Inter.
J'ai déclaré un cancer du sein à l'âge de 37 ans. J'ai eu une mastectomie et avec un choix de ne pas me faire reconstruire, même si on appelle ça reconstruction mammaire, c'était pas fait pour moi. Et le tatouage, c'est mon choix. C'est mon premier tatouage, oui.
En ce mois d'octobre rose, des femmes éprouvées par un cancer du sein se font tatouer pour embellir leur corps mutilé par des opérations. C'est une association baptisée Sœurs d'encre qui propose ce mode de reconstruction alternatif à travers des dessins indélébiles délicatement gravés sous la peau. Les peaux des Françaises et des Français sont globalement de plus en plus tatouées. En 2023, un Français sur cinq porte de l'encre sous son épiderme. C'était 1 sur 10 il y a 15 ans. Le tatouage, qui a si longtemps été marginal, est devenu banal. On recense désormais des tatoués dans toutes les classes sociales, toutes générations confondues. Parmi les adeptes du dermographe, les 18-35 ans sont majoritaires. Les femmes se font aussi davantage tatouer que les hommes aujourd'hui.
C'est vraiment purement esthétique pour moi, il n'y a pas de signification particulière. Ça va vraiment venir remplir quelque chose pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Après, je fréquente beaucoup de gens qui sont tatoués. Et c'est vrai que nous, on avait l'air un peu à poil tout le temps.
Comment expliquer un tel engouement pour une pratique qui remonte aux hommes préhistoriques? À l'époque néolithique, Ötzi, homme des glaces, comptait pas moins de 61 marques sur le corps. C'est ce qu'on a découvert sur sa momie. Les Gaulois aussi se tatouaient. À partir du XVIIIe siècle, les tatous sont devenus très en vogue dans les pays anglo-saxons grâce à James Cook, marin britannique revenu de Tahiti avec des tatouages indigènes. En France, le tatouage a longtemps été un signe d'appartenance pour les bagnards, puis les loubards, et il s'est démocratisé à la fin du XXe siècle.
Dans les années 80, moi, quand je me faisais tatouer, il y avait 30 studios en France. Là, aujourd'hui, on a 7000 tatoueurs en France. De toute façon, c'est devenu une mini-industrie. Tout le monde peut se faire tatouer, que vous soyez en province, soyez vieux, petit, gros, grand. Non, mais c'est vrai.
Nous partons aujourd'hui dans l'univers des tatoueurs, à la rencontre de celles et ceux qui se font tatouer. Quelles sont leurs motivations? Suivre une mode? Inscrire sur leur corps un événement marquant? Ou simplement afficher une identité? La France tatouée, c'est un reportage d'Aurélien Colli avec à la prise de son Nicolas Mathias et Frédéric Quérou.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Je suis dans l'atelier de Michael, il a la cinquantaine, jean, basket, pull, petites lunettes, quelques tatouages qui dépassent dans le cou et sur les avant-bras.
De toute façon, tu en avais fait quelques-uns à Jérusalem, non?
Moi, j'en ai fait un paquet. Hein. Oui, à Jérusalem, toute la journée, j'arrêtais pas. Celui-là, je sais pas si je l'ai fait à Jérusalem, j'en sais rien. C'est les pèlerins, ils sont... Ils ont toujours peur. Mais en général, les pèlerins, ils sont à Jérusalem une journée ou deux, pas plus. Hein.
Tu n'as pas que des pèlerins à Jérusalem qui viennent se faire tatouer aussi?
Non.
Son nom officiel de tatoueur, c'est Michael de Poissy, parce qu'il y a 30 ans, quand il a commencé, il y avait tellement peu de tatoueurs en France qui s'appelaient souvent par le nom de leur ville ou par le nom du quartier dans lequel ils opéraient.
Jennifer, elle a choisi la résurrection, c'est une super belle scène. Il y a le Saint-Sépulcre là. Deux anges qui sont là, des rameaux d'olivier, une croix, voilà. C'est un modèle avec une composition assez détaillée déjà.
C'est quoi, 10 cm à peu près de long et 7-8 de large, quoi, à peu près?
Ouais, on va dire 15 de haut même. Hein.
La spécialité de Michael de Poissy, c'est le tatouage vitrail. C'est aussi un grand collectionneur et un féru d'histoire du tatouage. Il vient même d'être nommé commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres de l'Académie de Paris, ce qui est une première pour un tatoueur. Et là, il est en train de faire un tampon de Jérusalem. C'est un modèle de tatouage utilisé là-bas par les pèlerins chrétiens.
Alors ces tampons, je les ai ramenés de Jérusalem où j'ai travaillé au mois de juillet. Ils viennent de la famille Razouk de Jérusalem. On peut remonter leurs traces jusqu'au XVIIIe siècle à peu près, cette famille. Donc dans la tradition copte, hein, qui est, le tatouage se fait le jour du baptême.
On est dans une tradition séculaire. Hein. C'est les premiers tatouages de tampons qu'on peut remonter, ça va sur les premiers pèlerins au 5e siècle, 6e siècle, qui se faisaient déjà tatouer au cas où ils meurent sur ce chemin qui était assez dangereux à l'époque, qu'ils puissent se faire enterrer de façon chrétienne, s'ils avaient une marque catholique sur eux, quoi.
Vous, Jennifer, vous faites quoi dans la vie? Vous venez d'où et...
Je travaille dans la mode. Je suis originaire du nord de la France, mais je vis dans le sud.
Vous êtes beaucoup tatouée déjà ou...
J'ai quelques petits tatouages. C'est des petits tatouages, mais c'est quelque chose que j'adore. Et mon évolution spirituelle, le fait de marquer ça aussi sur ma peau, qui fait partie aussi de mon histoire personnelle. Enfin, c'est vraiment tout un passage en faisant ce tatouage.
On dit pas que t'as mal là quand même.
Un peu. J'ai la peau fine. C'est pour ça.
C'est vrai que t'as la peau fine.
Michael, il y a une époque dans l'Europe chrétienne, latine, c'était pas très très bien vu, même si ça existait pour des marquages de pèlerinage ou de corporation.
Culturellement, c'était pas quelque chose qui était beaucoup pratiqué en France. Ou dans les pays latins en général, en Italie non plus. Les Anglais ont été, de toute façon, ils avaient déjà cette culture du marin. Donc ils ont pris un petit peu les rites et coutumes des îles sur lesquelles ils accostaient. Cook a été un des premiers à... D'ailleurs, c'est lui qui a ramené le mot tatou, hein. Ça vient de tatao, donc, qui veut dire frapper. Et là, on assiste tout de suite à des salons de tatouage qui s'ouvrent en Angleterre. Et là, on est en 1890. En France, la culture du tatouage, elle est totalement rejetée par nos élites. Tous les exemples que j'ai, dans les histoires qu'on pouvait lire dans les journaux, des choses comme ça, le tatoué était toujours un personnage malveillant, c'était toujours quelqu'un qu'il fallait se méfier. Ça va avec l'école du crime, forcément, puisque c'est surtout là qu'on se fait tatouer. Le tatouage de Bagnard, c'est forcément dans un endroit de souffrance, dans un endroit de peine, dans un endroit où, pour lui, il n'a pas de futur, donc il va commencer à se faire tatouer. Il y a un mimétisme qui se crée, bien sûr, entre détenus, et il faut que tout de suite, il y a un message qui soit passé. Donc, quand on se fait tatouer victime d'école bleue, c'est forcément victime de ses supérieurs, de l'armée, victime de la police, enfant du malheur, né sous une mauvaise étoile. Après, on a des différents classements dans le tatouage. On a le tatouage militaire, on a le tatouage de voyou, on a le tatouage de proxénète. Le proxénète ne va pas se faire tatouer des papillons qui est réservé aux voleurs, pour l'allégorie comme lui je vole. La grappe de raisin, généralement, c'est quand on vient du bagne de Calvi. Tout ça, c'est des choses, finalement, qui vont faire partie du langage carcéral, qui font que pour la police criminelle, à partir de Bertillon, on commence à s'intéresser un petit peu à ce phénomène, en se disant que finalement, ce serait pas une mauvaise idée de commencer à répertorier tous ces tatouages, les prendre en photo, ce qui fait qu'on a affaire aussi à une population qui va commencer à recouvrir ces tatouages. Et là, progressivement, le tatouage va commencer à décliner, ce qui est un petit peu dommage parce qu'on avait affaire à des artistes exceptionnels, après qui ont été totalement perdus. Et le tatouage, la résurgence du tatouage au début des années 60 avec les blousons noirs, on a affaire vraiment là à un tatouage fait dans les caves ou comme ça entre copains, où là on n'a plus du tout ce côté artistique qu'on avait pu trouver quand même dans les années 1900.
C'est terminé le travail? C'est très fin en fait comme tatouage.
Oui, c'est fin, il faut que ça le soit, parce qu'il faut que ça vieillisse bien. Il n'y a pas de couleur pour arrêter les traits. Les traits, ils ont tendance à avancer avec le temps dans la peau. Ça bouge, donc il faut faire quelque chose de vraiment fin pour essayer au maximum que d'ici 10, 20, 30 ans, Jennifer soit toujours aussi fière de pouvoir lever son bras.
Vous êtes contente?
Oui, je suis très contente.
Vas-y, regarde dans la
gueule. Je suis très contente. Il est parfait.
C'est super fin,
Gérard. Ouais.
J'avais l'intention de vous emmener à Pigalle. Non pas comme vous pourriez le penser ingénument pour y faire la tournée des cabarets, mais pour vous faire connaître un personnage unique en son genre, le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal, mettant le tatouage à la portée de tous. Voici Monsieur Bruno.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ça va?
Oui. On va où? Là?
Là, ça me va bien, moi.
Je reste assis?
Bah bien sûr, je vais pas vous laisser debout.
Quand on approche les 90 ans...
Je vous laisse avec ces aiguilles.
Qu'est-ce que vous faites exactement là?
Un motif de tatouage.
Vous pensez vraiment que vous allez pouvoir gagner votre vie à Pigalle en faisant des tatouages, disons, honnêtes?
Dès maintenant, je sais qu'en France, ça marchera. Et puis dans le fond, pourquoi pas, puisque dans tous les pays du monde, que ce soit des pays de groupe latin ou nordique, ou enfin peu importe, il y a des gangsters partout, il y a des amoureux partout, il y a des durs partout.
Faut que je vous décrive un peu, parce qu'on fait de la radio.
Ah, oui.
Grande barbe blanche, un peu comme le Père Noël.
Je l'ai laissé précisément pour jouer les Pères Noël, mais le médecin m'a interdit de le faire en me disant que les enfants allaient me foutre le Covid. Alors, craignant de choper la myxomatose, vous savez, par ces jolis lapins, eh ben j'ai gardé parce que ça plaît à mon épouse. Alors, puis moi, ça me fait un peu vieux con.
Alors, au début, vous étiez vendeur de pommes de terre, c'est vrai ou pas?
C'est comme ça que j'ai lancé les sachets de 2 kilos pour trouver un élément nouveau pour accrocher ma clientèle. Puis ça a marché du feu de Dieu.
Alors, vous étiez déjà dans l'innovation des pommes de terre, et alors vous avez innové encore plus après. Vous êtes lancé dans le tatouage.
Ben, c'est toujours la fin qui se fait sortir le loup. Et le hasard m'a fait rencontrer en Hollande un tatoueur. C'est comme ça que j'ai été fasciné par le tatouage, comme il fascine toujours, et que je suis moi-même devenu tatoueur. Et à ce moment-là, ça m'a permis d'ouvrir le premier magasin en France.
C'était quand ça? Quelle année à peu près?
C'était en 1962.
Quartier de Pigalle?
Oui, c'est comme ça que je suis devenu Julot à Pigalle. Parce que j'ai eu la chance que des filles tapinaient dans la rue, là. C'était la naissance de la mini-jupe aussi à ce moment-là. Alors elles venaient se faire chauffer le magasin au-dessus de mon poil, et partant de là, quand elle montait avec un gars qui était un peu tatoué, elle lui disait « Viens chez Bruno, il va t'arranger ça. »
Oui. Parce qu'en fait, les premiers que vous avez tatoués, c'est des types qui avaient des petits tatouages qui ramenaient quoi? De la guerre, de la prison, des choses comme ça, ou de la marine?
Tout à fait. C'était ce qu'on appelait la bousille. J'avais pas de rond, et puis ensuite, c'était un quartier où les choses se traitaient au poing ou au couteau. C'était Pigalle, l'époque des tontons flingueurs.
Vous avez découvert littéralement le tatouage, alors en plus de ça, je vois vos mains, mais je le sais, vous n'êtes pas tatoué.
Non, je n'en ai pas senti ni le besoin, ni l'envie. Pour moi, le tatouage, c'est un peu comme la porte des chiottes, vous voyez. Vous rentrez si vous avez besoin ou si vous avez envie. Et une fois que vous êtes dedans, bah, vous faites ou vous ne faites pas. Mais personnellement, je n'en ai plus jamais ressenti le besoin.
Qu'est-ce que vous faisiez comme type de tatouage?
Il y avait un bestiaire du tatouage. Ce bestiaire du tatouage, je l'ai découvert dans l'œuvre de Monsieur Jacques... c'est un flic... Delarue, Jacques Delarue, oui. Alors moi, il fallait que j'apprenne tout ça par cœur. Ça a été un combat.
Et petit à petit, vous avez vu arriver cette nouvelle faune qu'on voit dans Paris à partir des années 60, 70, 80, c'est-à-dire toutes ces bandes un peu, Hells Angels, Blouson Noir, oui. Etc., les punks, des choses comme ça.
Ah oui, c'était des petits mecs qui avaient envie de se faire tatouer. Il y avait des légionnaires. Il y a eu toute une bande de motards. Et puis après sont venus les Hells Angels. Après sont venus les tribales. Ce qui marchait bien aussi, c'était les panthères noires. C'était les fauves, c'était les aigles, c'était tout ça. Ah, c'était mal vu. Très, très, très mal vu. Il y en a une tripotée de mecs qui sont passés. Bon, par exemple, Gérard Lanvin... Il y avait Renault, il y avait Coluche, il y avait tous ces petits mecs-là qui sont devenus célèbres. Alors même Johnny Hallyday qui passait souvent me dire bonjour, mais ils étaient tous à Pigalle.
Sur le bras droit, j'ai un tatouage. Il y a une fleur, il y a un oiseau qui s'envolera plus jamais. Puis il y a le prénom d'une souris. Une souris qui est tellement belle qu'il faudrait que je m'appelle Verlaine pour trouver les mots qu'il faut pour vous la décrire un peu. Mais je vais essayer quand même. Dans ses yeux... Il y a tant de soleil que quand elle me regarde, je bronze. Dans son sourire, il y a la mer. Et quand elle me parle, je plonge. Quand je serai grand, on se mariera. Puis on aura plein d'enfants. Même que ça sera un garçon. Même qui s'appellera Pierrot. Hey, laisse-moi fermer les yeux, ouais. Laisse-moi rêver un peu. Dans le dos, je voulais me faire tatouer un aigle aux ailes déployées. On m'a dit, il n'y a pas la place. Non, t'es pas assez carré, alors t'auras un moineau. Eh, il y a des moineaux rapaces. Ça te fait marrer mes conneries, laisse béton, je démystifie.
minutes de marche pour aller du quartier de Pigalle et des années 60-70 au quartier de Belleville, précisément à la Bellevilloise, une ancienne coopérative née après la Commune de Paris, qui est devenue un endroit branché du nord de la capitale avec cafés, concerts, expositions, et aujourd'hui avec un mini festival du tatouage. Alors il y a des dizaines de tatoueurs qui sont là, chacun avec son stand. Ils présentent ce qu'on appelle des flashs, c'est-à-dire des dessins qu'ils ont élaborés eux-mêmes. Ça fait des tatouages express qu'on fait comme ça, un peu sur un coup de tête sur place. On n'est pas du tout dans l'ambiance tatouage blouson noir, mais bien dans une ambiance Belleville 2023, plutôt hipster bobo. Alors sur les stands, qu'est-ce qu'on peut se faire tatouer ? Ah ben, je vois ici par exemple un hot dog à 160€ quand même, ouais. Un homard un peu plus loin, 170€. Un croissant, le croissant il est à 140€. Et puis il y a le hamburger aussi, on peut se faire tatouer un hamburger pour 210€. Si je regarde de l'autre côté de l'allée, il y a des choses qui sont quand même un peu plus élaborées. On a des personnages, des ornements, des fleurs, des choses plutôt aussi d'inspiration asiatique. Enfin, il y en a un peu pour tous les goûts, quoi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Sid ?
Oui, c'est ça. Moi, je suis tatoueuse depuis 5 ans. J'ai une formation initiale en communication. J'ai travaillé en tant que chef de projet digital chez Lagardère pendant 2 ans. J'ai fait pas mal de dessins et de pinceaux en aiguille, comme j'aime le dire. J'ai fini dans le tatouage, voilà.
Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?
Donc là, on est en train de faire une fleur que j'ai travaillée en mettant des volutes tout autour pour prendre un peu plus le mouvement du bras.
C'est sur l'avant-bras, avant-bras droit. De l'autre côté de l'aiguille, il y a votre peau, vous ?
Absolument, il y a ma peau.
Comment vous vous appelez ?
Anaïs.
Anaïs.
J'ai 36 ans et je suis éducateur canin.
C'est votre premier tatouage ?
Oui, c'est mon premier.
Et tout de suite, directement, tout l'avant-bras, comme ça, là ?
J'avais pas prévu qu'il soit aussi gros, pour être franche. J'ai vu son flash sur l'Instagram de l'événement. Et du coup, j'ai eu un coup de cœur pour ce flash-là. Ça me va très très bien et ça faisait très longtemps que je le voulais, très longtemps que je le reportais et que je différais la chose parce que j'avais peur de la douleur déjà, peur des conséquences. Mon ancien travail, c'était de travailler pour le ministère de la Justice et puis par tout le regard des parents aussi, de la famille qui n'est pas forcément très très pour, qui m'a longtemps freinée. Ils vont être ravis d'ailleurs. C'est vraiment purement esthétique pour moi, il n'y a pas de signification particulière. Ça va vraiment venir remplir quelque chose pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Parce que je sais pas, je trouve que... Bah, après je fréquente beaucoup de gens qui sont tatoués. On évolue pas mal dans le monde un peu métal, etc. avec mon conjoint, donc le Hellfest, tout ça, on fréquente beaucoup de gens tatoués. Et c'est vrai que nous on avait l'air un peu à poil tout le temps.
Qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant au ministère de la Justice ?
Je travaillais pour l'administration pénitentiaire.
Ben voilà, c'est pour ça que je voulais vous demander, parce que on se tatoue beaucoup en prison.
Oui, mais pas de ce côté des barreaux. J'étais du bon côté. Donc non, c'était moins acceptable. C'était faisable, hein, mais moins acceptable.
Le tatouage qui était l'apanage des criminels au siècle dernier a désormais conquis des femmes et des hommes de loi, des surveillants de prison ou des policiers. On estime que 13 millions de Français sont tatoués aujourd'hui. D'où vient cette passion ? Quel bouleversement le tatouage a-t-il connu ? Pour le savoir, on retrouve Aurélien Colli dans le quartier de Belleville avec Jérôme Pierrat, journaliste spécialisé dans les affaires de grand banditisme et amateur d'encre sous l'épiderme. Il a créé en 1997 la première revue française dédiée à cette pratique, Tatouage Magazine.
Interception.
C'est quoi votre histoire avec le tatouage, à vous ?
Sur France Inter.
Ah, alors moi, mon histoire avec le tatouage, elle remonte assez loin, parce que quand j'étais jeune et inconscient, je m'étais fait des tatouages dans les années 80. Et puis, moi, c'est ça, mon premier contact avec le tatouage. Donc, c'est ce qu'on appelait les tribus urbaines dans les années 80. Il y avait les punks, les new wave, les skins, tous les hard rockers, machin. Tout le monde commençait un peu à se tatouer. Et puis, jusqu'à ce que le tatouage se développe un peu plus en France, peut-être 15 ans après... Et donc, on
c'est
a
la naissance de Tatouage Magazine,
il y a 25 ans exactement. C'est-à-dire que l'explosion qu'on connaît aujourd'hui, tatouage, elle remonte. C'est une vieille histoire. Il y a toujours eu, je vais le faire autrement. À partir des années 80, il y a une chaîne de télé qui va se monter aux États-Unis qui s'appelle MTV et qui va diffuser des clips, et des clips principalement à l'époque de hard rock. Et les hard rockers, et bah, comme ils font les durs et tout, ils ont des tatous. Et les punks aussi, enfin, c'est cette mouvance musicale de la fin des années 70. Voilà. Eux, ils sont très fans de tatouage. Et MTV va procéder, j'en parle, c'est pas anecdotique, c'est un des premiers vecteurs de démocratisation du tatouage. C'est-à-dire que chez vous, dans votre canapé, d'un seul coup, vous voyez des mecs tatoués et qui sortent pas de prison, pour le coup. Voilà, qui sont en plus des guitar heroes, enfin bon, voilà, qui ont un certain nombre de fans. Donc tout le monde va commencer à vouloir se faire des tatouages comme les chevelus du hard rock ou les punk à crête, etc., etc. Et à la même époque, il y a des gens qui font par exemple les beaux-arts, des écoles d'art décoratif. Ils vont s'intéresser à ces sous-cultures. Et eux, ils vont dépasser ça. Ils vont dire le tatouage, ça peut être artistique. Je m'explique. Le tatouage occidental, c'est des petits dessins. Un tatouage d'appartenance. Je suis marin, je me fais la grille de lecture du marin. Je suis légionnaire, je me fais les trucs de bidas. Je suis punk, Punk's Not Dead, Sex Pistols. Bon voilà, chacun avait sa grille. Le tatouage polynésien ou tribal en général, que ce soit de Bornéo, de Polynésie, Eskimo, tout ce que vous voulez, ou le tatouage japonais, c'est un graphisme qui est créé exprès. Et donc, c'est pas du tout du tatouage autocollant, c'est des tatouages qui sont faits à l'échelle d'un membre. D'une jambe, d'un bras, d'un torse, d'un dos, voilà, pour que ça soit en harmonie avec votre morphologie. Et donc là, ça va déjà donner une dimension totalement différente au tatouage. On va rentrer dans une dimension un peu plus artistique. Donc tous ceux qui aimaient bien le tatouage, mais n'osaient pas y aller, parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas dedans, ils vont commencer à y aller. Et un public nouveau arrive. Donc il y a comme ça une vague mondiale qui est née à la fin des années 90. C'est pour ça que nous, le magazine, il naît en 97, parce que c'est le début de cette... Voilà, on n'aurait jamais pu faire un magazine de tatouage avant 97. Faut avoir une idée quand même des chiffres. C'est-à-dire que dans les années 80, moi, quand je me faisais tatouer, il y avait 30 studios en France. Là, aujourd'hui, on a 7000 tatoueurs en France. Donc, c'est un truc qui est devenu hallucinant, parce qu'effectivement, si vous savez dessiner, soit vous savez vraiment bien dessiner et vous finissez artiste contemporain, adulé et riche, soit vous êtes au centre Beaubourg Pompidou à Paris et vous faites des caricatures de touristes italiens et hollandais. Donc il y a toute une frange de jeunes artistes talentueux qui se sont dit « bah il y a un boulot qui est rémunérateur parce que le tatouage ça vaut cher. On travaille quand on veut. Faisons tatoueur !» De toute façon, c'est devenu une mini-industrie. Tout le monde peut se faire tatouer, que vous soyez en province, soyez vieux, petit, gros, grand. Non mais c'est vrai, c'est devenu un truc total. Et d'ailleurs à tel point que nous, on a renoncé à faire des enquêtes de lectorat. Le profil est tellement différent, je peux plus vous dire.
Je suis à Vesoul, sous-préfecture de la Haute-Saône. Vesoul, c'est 25 000 habitants, 70 000 si on intègre les communes rurales des environs avec tous leurs nouveaux lotissements. Alors Vesoul, c'est le centre mondial des pièces détachées de Stellantis, autrefois Peugeot. Et à Vesoul aujourd'hui, il y a le 70s Tattoo Show, 70s comme 70, c'est le numéro du département de la Haute-Saône. C'est une convention de tatouage en fait, comme il en existe des dizaines et des dizaines en France tout au long de l'année. Cette décentralisation du tatouage, cette ouverture aussi au grand public, elle a joué un rôle central dans le boom du tatouage en France ces dernières années.
Est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Alors sur votre t-shirt, il y a marqué Pat le Boss, donc j'imagine que vous êtes le boss.
C'est ça, voilà. Donc Patrick, j'ai bossé dans l'événementiel quand j'étais en Alsace. Quand je me suis installé en Haute-Saône, il ne faisait pas grand-chose. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a un copain tatoueur, on n'était pas tatoué à l'époque. Et puis il nous a dit, bah, faites un salon de tatouage. Et puis donc du coup, on a décidé de créer le 70 Tattoo Show, 115 stands en tout. Les poussettes peuvent se croiser, c'est le plus important. Voilà, donc c'est beaucoup familial. On tourne à 4000 visiteurs sur le week-end. Et après, voilà, on fait travailler tous les artistes du coin.
Vous faites quoi? Vous travaillez vous...
Alors, moi, je suis salarié d'une entreprise de la région.
Stellantis. C'est Peugeot, quoi.
C'est anciennement Peugeot. Anciennement Peugeot, voilà. La Peugeot, c'est ça. Voilà, la Peugeot. On a d'ailleurs beaucoup de bénévoles de la Peugeot. Il y a des bénévoles de l'époque où je travaillais en discothèque. Et des bénévoles, parce que je suis réserviste de la gendarmerie. Et donc, une partie de l'équipe sécurité, c'est des réservistes de la gendarmerie. Voilà.
4000 visiteurs par an, 7e salon, il y a encore des gens à tatouer à Vesoul et dans les environs avec tout ce que vous faites depuis 7 ans?
Alors, il y en a de plus en plus, parce que maintenant, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand on regarde les gens sur la plage, on dit « tiens, lui, il n'est pas tatoué ». Avant, on disait « ouais, lui, il est tatoué ». Et maintenant, il y a vraiment une bascule qui se fait. Et on se rend compte que ça a pris vraiment une ampleur. j'aime pas le mot démocratiser, mais maintenant les gens, ils, ah tiens, je vais faire un tatouage, c'est plus le côté bad boy, quoi, c'est ça. Donc maintenant, en tatouage, ils peuvent tout faire, donc c'est vrai que c'est, on peut faire la tête de mort toute simple, comme on peut faire le portrait de quelqu'un, et on a des tatoueurs qui sont à la pointe, là.
On est là jusqu'à 22h, restez bien avec nous. Et dans une heure, le prochain show, c'est juste pour vous et ça se passe tout de suite sur la grande scène.
Est-ce que vous pouvez me dire comment vous appelez vous?
Alors moi c'est Mikeing Tattoo, ouais. Mon nom de tatoueur.
Et votre nom normal?
Mickaël.
Mickaël, vous êtes ouais. Du coin vous?
Moi je suis de Louhans. Louhans, Saône-et-Loire, vers Lons-le-Saunier.
Alors vous êtes impressionnant quand on vous regarde?
Ah oui, apparemment, ouais.
Là, je décris un petit peu pour les auditeurs, donc vous avez les deux bras qui sont couverts de tatouages.
C'est ça.
Et puis vous avez le visage aussi qui est couvert de tatouages. Alors je vois au-dessus de l'oreille droite, il y a une sœur, une nonne en train de prier. Je vois quoi d'autre? Des étoiles. Vous seriez peut-être mieux à même de me décrire ce que vous avez. Vous avez aussi un barbelé en haut du front. Vous avez en rouge comme des veines qui vous traversent le visage.
C'est éclair, ouais.
Un éclair, voilà.
En fait, sur chaque tatouage que j'ai sur moi, ça représente toute ma vie en fait. C'est mon côté à moi, j'ai un côté sombre et ange et démon. Après, c'est aussi une passion.
Ouais, alors vous avez marqué Love au-dessus de l'œil droit.
C'est ça, j'ai écrit Family Love.
Ouais, je vois aussi sur les paupières, ouais. The end, quand vous fermez les yeux.
C'est ça.
Ça veut dire quoi? Dire que quand on ferme les yeux, c'est la fin?
C'est la fin.
Ça fait combien de temps que vous vous tatouez, vous?
Ah, moi j'ai commencé, j'avais 16 ans.
Et vous avez?
J'ai 34.
18 ans, quoi.
Voilà.
D'accord.
18 ans, ouais.
Comment vous avez commencé au début?
Ah, j'ai commencé mon premier tatouage quand j'étais sapeur-pompier. Par la suite, j'ai pas arrêté d'enchaîner, on va dire tous les ans. J'en faisais au moins un, deux ou trois dès que je pouvais. Quoi.
Alors avec votre barbe, vos piercings et tous ces tatouages, vous avez l'air presque un peu effrayant, mais Patrick, qui organise le festival, nous a dit au début, en fait les tatoueurs, certains ont l'air très impressionnants, mais c'est les gros nounours.
C'est ça.
Vous confirmez, vous êtes un
gros
nounours?
Ah ouais, je suis un gros nounours, hein. On croirait pas comme ça.
Pourquoi mais... vous avez un cœur de nounours et puis en même temps cette apparence qui... Donc vous ne pouvez pas ne pas savoir qu'elle est impressionnante.
Oui,
c'est
après
quoi,
c'est...
C'est un masque,
c'est... Non, c'est pas mon masque, c'est ma personnalité. Je suis comme ça.
Et vous, mademoiselle, je peux vous poser deux, trois questions?
Oui, pas de soucis.
Ouais. C'est quoi votre prénom?
Mélanie, j'ai 24 ans.
Alors vous faites quoi, vous? Là, sur la main droite, vous faites...
Oui, je fais quelque chose qui me plaît.
C'est-à-dire, c'est une petite...
Un petit ornement.
Voilà, un ornement, on va dire. Ça cherchait, j'allais dire fleur, c'est pas une fleur, c'est un ornement. Ça vous fait mal là?
Non, ça va. Ça va.
Et puis les avant-bras un peu?
J'ai les avant-bras, j'ai les jambes, j'en ai dans le dos, j'en ai un dans l'oreille.
Vous adorez ça?
J'adore ça, ouais.
Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous a donné le...
J'en ai fait un, j'ai fait le premier et je ne me suis plus arrêtée.
Qu'est-ce qui vous plaît? C'est les dessins?
C'est la signification.
C'est-à-dire?
Le fait que je puisse raconter une histoire avec ce que je vais faire comme tatouage.
Alors par exemple, là, sur l'avant-bras gauche, vous avez quoi?
Alors j'ai les initiales de mes grands-pères décédés,
ouais.
J'ai le prénom de ma filleule avec sa date de naissance,
ouais.
Et ensuite j'ai un détraqueur qui représente la mort dans le film Harry Potter que j'adore.
Alors, sur le torse, c'est quoi?
Sur le torse, c'est une légende gothique, c'est la légende des trois sœurs qui gèrent notre vie de la naissance jusqu'à la mort.
Donc c'est tout un univers en fait,
oui.
Dans lequel vous êtes?
Oui, oui.
Vous n'avez pas peur de regretter?
Non.
D'accord, ok. C'est fini?
C'est fini.
Ouais, ouais. Ça y est?
Ça y est.
Oh, c'était rapide.
Oh bah oui, ça c'est.
Ah oh, ouais.
Bah, merci beaucoup. Il est trop beau. Ça rend trop bien.
Contente?
Je suis très contente. Très satisfaite.
Aujourd'hui, il existe plein de styles différents de tatouage. Par exemple, il y a le réalisme. Là, on a des dessins très précis, presque des reproductions de tableaux, de photos, de portraits. Il y a le tatouage d'inspiration asiatique, celui qui vient du Japon, ou le tatouage plus tribal qui vient des îles du Pacifique. Il y a le tatouage old school, c'est celui des marins, un peu à la Popeye. Le tatouage hipster, bobo, avec son effet autocollant sur le corps, et même le style dit new school, qui s'inspire lui du graffiti, des mangas, du cinéma d'animation. Alors pour essayer de comprendre maintenant pourquoi on se fait tatouer, je vais voir Élise Muller, elle est sociologue, elle a écrit une anthropologie du tatouage contemporain.
C'est quoi les motivations de ceux qui se font tatouer? Vous relevez des typologies?
C'est cinq grandes familles qui s'entremêlent. Hein. C'est pas souvent un tatouage est porté par plusieurs motivations. Il y a le fait de passer à une nouvelle étape de la vie, marquer un passage, un moment important dans son cheminement personnel. Le fait de se rassembler aussi, de rassembler différentes facettes de soi, se dire comme individu multiple. Affirmer ses valeurs, le troisième grand type de motivation. Également, certains se livrent à une sorte de rite personnel, de mythe personnel, donc quelque chose, un tatouage qui va révéler quelque chose de particulier de soi qu'on ne voit pas de prime abord. Et puis enfin, la dimension esthétique présente dans quasiment 100% des cas. Parce qu'il est indéniable qu'un tatouage dit beaucoup aussi du rapport au corps, et puis on a envie qu'il soit joli, qu'il mette en valeur le corps. Mais je pense que c'est très complexe parce que le tatouage dit tellement de soi que c'est difficile de généraliser. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de réconciliation avec le corps qui se manifeste autour du tatouage, qui vient pas forcément du tatouage en lui-même, mais que le tatouage vient illustrer en tout cas. Une sorte d'harmonie entre le corps et l'esprit.
Le tatouage en lui-même est aussi une forme d'émancipation parce que on est dans un pays, la France, qui a été très marqué par la culture chrétienne.
Alors, c'est intéressant parce que moi, ce que j'ai relevé en étudiant justement les emprunts culturels dans les tatouages dits ethniques, c'est vraiment un grand rapport à la spiritualité. Même chez des personnes athées, quelque chose de cet ordre-là qui me semble intéressant parce que justement, oui, on assiste à un détachement de la religion. Comme si le tatouage venait se présenter comme une compensation de la perte du sacré dans notre société. Ce besoin de retrouver du sacré, du rite aussi, auprès du tatoueur, qui se présente comme passeur de quelque chose profond en soi. Recréer du rite, mais aussi et surtout des jalons, parce qu'on a aujourd'hui l'impératif de devenir soi, dans un épanouissement personnel, mais sans avoir de recette magique. Et le tatouage, souvent, sert d'appui à cette recherche d'identité, de récit personnel. Et les tatouages vont illustrer justement ce cheminement vers soi.
Le tatouage, souvent, est ostensible. La plupart des tatoués cherchent à montrer leur distinction, traditionnellement de couleur bleue et de plus en plus multicolore. Mais beaucoup se tatouent d'abord pour eux-mêmes, tatouage intime, qui est parfois le stigmate d'une blessure invisible, marqueur d'un traumatisme, pour ne pas l'oublier et le transformer. C'est l'histoire de femmes victimes de cancer du sein ou de plusieurs rescapées des attentats de 2015. Comme ce jeune homme, survivant du massacre du 13 novembre au Bataclan, qu'Aurélien Colli a rencontré en banlieue parisienne.
France Inter.
Interception.
Je m'appelle David Fritz-Oppinger, j'ai 31 ans, je suis photographe et le 13 novembre j'ai été pris en otage au Bataclan.
Alors vous avez décidé de garder une véritable trace visible, pas la trace psychologique si je puis dire. C'est un tatouage que je peux voir là sur votre avant-bras.
En fait c'est un tatouage donc en chiffres romains où il y a écrit 13, 11, 15 avec un tiret puis 5. Slash 5.
Alors 13, 11, 15 comme 13 novembre 2015.
Ouais, c'est ça. Et le 5 sur 5, c'est parce qu'on était 5 au Bataclan.
C'était le groupe d'amis avec lequel vous étiez
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'était les gens avec qui, on allait au Bataclan, quoi. Et aussi, on est tous dans le 5e, donc ça fait, ça fait un écho à tout ça.
C'est le premier tatouage que vous avez fait, parce que j'en vois d'autres, hein. Ouais. Vous en avez d'autres maintenant sur les avant-bras.
Ouais, c'était le premier, ouais. pour me dire à moi-même que voilà, j'ai été marqué par un événement. Cantonner cette histoire à un espace d'à peu près 10 cm et sur 1 cm sur ma peau. Ouais. Et le tatouage, c'est...
Parce que vous n'avez pas été blessé, il faut le dire aussi.
Non, ouais, je m'en suis sorti quasiment indemne, quoi. J'avais des blessures très superficielles par rapport au contraste de la violence qu'on a vécu, les ex-otages. C'était important aussi pour moi de montrer, voilà, j'ai vécu ça, voilà la marque, la trace que j'ai décidé d'avoir.
Est-ce que vous avez eu l'impression que ça vous avait aidé à cicatriser, en fait ?
Dans un premier temps, ça m'a vraiment aidé à déporter mon attention sur j'ai plus ça à l'extérieur de moi, c'est à l'extérieur. À l'intérieur de moi, c'est à l'extérieur. Moi, j'avais vraiment cette impression de maîtriser le truc. Alors, je pense que c'est complètement illusoire.
Alors, vous en avez fait un autre, en plus.
Ouais. En fait, le second, donc moi, j'ai suivi le procès de manière très intense. Et donc, j'avais cette idée de salle des pas perdus. Voilà, je passais mon temps dans la salle des pas perdus du Palais de Justice de Paris. Et j'avais envie de marquer mon corps à nouveau avec ce sens-là. Et en fait, c'est une hirondelle, en fait, qui est traversée par un clou, je crois, ou une sorte de grande épine. Et juste en dessous, il y a écrit « pas perdu ». Parce que cette hirondelle qui est un peu foudroyée par cette épine, c'était un peu moi. Ouais.
Donc deux tatouages qui sont liés à ce que vous avez vécu ces dernières années, des événements violents et puis aussi des événements de reconstruction avec ce procès. Mais vous en avez en fait plein d'autres, quoi. Donc depuis, vous avez été pris... une passion pour le tatouage.
Ouais, en fait, après le premier sur le 13, j'ai eu envie de me tatouer un peu partout. Mais là, par exemple, j'ai tatoué le nom du bar où je travaillais avant les attentats, où j'ai arrêté. Et ça, c'est un de mes plus grands regrets dans ma vie, en fait. Parce que avant le 13, j'avais projeté plein de projets professionnels. Et c'était dans des bars, des pubs où on passait du rock, où il y avait de la foule, tout ça. Et en fait, quand j'ai essayé de retravailler après le 13, c'était plus possible, quoi. Voilà. J'avais vraiment envie de marquer mon corps. En fait, en tant qu'otage, on devient l'objet d'échange, de pourparler. Et cette objectisation-là, on l'a subie ensuite pendant des années, quoi. Donc je pense que, ouais, rétrospectivement, c'était une manière de dire « ça, c'est à moi, je le garde ». C'était vraiment celle de dire « c'est mon corps, je fais ce que je veux avec et voilà ce que je décide de faire avec ». C'est plus la même peau, c'est plus la même enveloppe.
Grâce au tatouage, c'est plus la même enveloppe, c'est plus la même peau. C'est ce que disait David, ancien otage au Bataclan, le 13 novembre 2015. Le tatouage, en fait, pour cicatriser des blessures psychologiques qu'il a subies. Ça, c'était à Paris, et maintenant, je suis à Bordeaux. Je vais voir des femmes qui utilisent aussi le tatouage, mais pour se réconcilier avec un corps qui a été meurtri par des opérations. Elles ont toutes été victimes de cancer du sein.
Excusez-moi, je vais vous appeler, savoir si vous êtes bien là. Aude et Héloïse, Béatrice et Muriel, Corinne et Marie, Émilie et Pia, Lydie et Elisa.
Très bien, donc bonjour à toutes. Donc moi je suis Nathalie, je suis présidente et cofondatrice de l'association Sœurs d'encre. Donc déjà ce que je voulais vous dire, c'est que ce sur quoi vous ne le voyez pas forcément, mais qu'on travaille toute l'année, c'est vraiment se faire reconnaître le tatouage artistique de reconstruction comme une réelle reconstruction à part entière pour les femmes qui le choisissent, bien évidemment. Mais nous, on est en train de travailler, et depuis 7 ans, on travaille là-dessus, pour que ça puisse être proposé quand vous allez vous faire opérer, enfin vous êtes passé toutes par là, qu'on puisse proposer les différentes reconstructions, prothèses, Dieppe, lambeaux, mais aussi le tatouage. Donc ça, de plus en plus, on travaille là-dessus et on met cette journée vraiment pour vous, pour que vous profitiez. On a tous envie et on va essayer que ça se passe au mieux. Donc voilà.
Face à moi, il y a une trentaine de femmes qui sont en train de se faire tatouer. Toutes ont eu des cancers du sein, toutes ont eu des ablations totales ou partielles des seins, avec ou sans reconstruction mammaire après les opérations. Et toutes ont des cicatrices qui sont en train d'être masquées ou au moins estompées par des tatoueuses qui sont bénévoles. C'est l'association Sœurs d'encre qui organise ça depuis 7 ans, en octobre, à l'occasion d'Octobre Rose, le mois de prévention du cancer du sein. L'événement a été baptisé Rose Tatou.
Je m'appelle Émilie, j'ai 42 ans et je suis responsable qualité dans une entreprise pour les dispositifs médicaux. J'ai déclaré un cancer du sein à l'âge de 37 ans, en 2019. J'ai eu une mastectomie et après tous les traitements, donc chimiothérapie, séance de chimiothérapie et radiothérapie.
Aujourd'hui, vous avez eu une ablation du sein gauche, c'est ça ?
Oui. Et avec un choix de ne pas me faire reconstruire. Même si on appelle ça reconstruction mammaire, j'arrivais pas à me reprojeter. C'était pas fait pour moi. C'était encore des opérations, c'était encore dans le milieu médical, c'était encore des arrêts maladie. Et tout de suite, cette idée de me faire reconstruire artistiquement et de symboliser, ancrer dans ma peau toutes les étapes, toutes les symboliques de mon combat, je trouvais ça très beau. Donc du coup, je suis là aujourd'hui. Autant la radiothérapie, la chimiothérapie, l'opération, c'est pas mon choix, c'est le choix du corps médical pour me donner de l'espérance de vie. Le tatouage, c'est mon choix. Puis on a fait un très beau travail avec Pia, ma tatoueuse, qui me correspond très bien en termes de motifs floraux, dentelles. Je voulais quelque chose de très féminin. On se sent amputée, on se sent moitié femme, moitié amputée de quelque chose quand même. Le sein, c'est quand même la maternité aussi, la féminité. Et on se sent amputée de la moitié d'un morceau de son corps. C'est une sorte de mutilation.
Est-ce que vous pourriez me montrer, avec Pia qui est en train de préparer le matériel, le dessin que vous avez choisi ?
Oui.
Ouais.
Oui, bien sûr. Pia, je ne sais pas si t'as le modèle ou tu veux que je montre un peu sur ce que j'ai moi en photo ?
Oui, oui. Je m'appelle Pia Beaumont, j'ai 31 ans, je suis tatoueuse depuis 8 ans.
C'est important pour vous de donner de votre temps pour cette association ?
Oui, c'est un des plus beaux moments de l'année. C'est une revanche collective.
Alors, expliquez-moi. Donc toute la partie, donc tout le sein gauche, et ça remonte un petit peu en dessous du cou. Alors c'est surtout des fleurs, un ornement.
Oui, je voulais quelque chose de très floral avec des pivoines. J'aime beaucoup les pivoines et la symbolique de la pivoine, c'est la féminité aussi. Et aspect dentelle aussi, pour garder un peu l'aspect dentelle féminin du soutien-gorge à dentelle. Et puis j'ai voulu une continuité sur mon sein droit aussi pour montrer que j'ai toujours mon sein droit et qu'il y a une continuité et que ça va vers l'avenir.
Il y a des spécificités sur ce genre de tatouage. On est sur une cicatrice, une peau qui est peut-être fragile, il y a encore des traitements. Vous êtes informée des spécificités qu'il y a quand on tatoue des femmes qui ont eu des mastectomies ?
Oui, alors c'est là où l'association Sœur d'Encre est très précieuse pour nous, c'est qu'on on a une formation avec une chirurgienne qui nous donne des repères sur ce qu'on peut faire, pas faire. On doit vérifier auprès du corps médical si on peut y aller ou pas. On y va avec précaution, quand on change de zone, on y va à tâtons, et puis voilà. Ok. Bras t'es fière, bras détendu.
C'est compliqué, les bras détendus.
Oh, mais tourne.
Vous appelez comment ?
Dominique.
Vous avez quel âge, Dominique ?
52 ans. On a découvert un cancer des seins. Les deux ont été touchés en même temps, en 2018. Donc, double mastectomie et tous les traitements qui vont avec. Et je me suis renseignée pour de la reconstruction et finalement j'ai opté pour ne pas me faire reconstruire la poitrine, mais le tatouage artistique.
Vous avez déjà été tatouée avant ?
Du tout, c'est le premier.
Quelle image du tatouage vous aviez avant ? Vous imaginiez pas un jour vous faire tatouer ?
J'étais pas très attirée par le tatouage, c'est vrai. Et non, je ne pensais pas un jour me faire tatouer, mais finalement, c'est le premier et peut-être qu'il y en aura d'autres qui suivront derrière, quoi. Voilà.
Vous avez attendu impatiemment ce jour ?
Oui, parce que du moment où j'ai pris la décision du tatouage, ça a mis 2 ans avant que vraiment je sois sûre de moi. Et une fois que j'ai rencontré l'association Sœur d'Encre, j'avais hâte. Et sereine en même temps. Je suis partie ce matin... sereine pour cette journée.
Vous avez choisi avec votre tatoueuse le motif que vous avez, qui est en train d'être réalisé, c'est les fleurs essentiellement ?
Oui. Oui, je voulais quelque chose de floral, de léger, de joli, féminin. Voilà. Même à 52 ans, c'est très important. J'ai encore de belles années devant moi et je veux qu'elles soient belles, quoi. Ce que j'accepte moins maintenant, c'est de voir que des cicatrices. Et le tatouage, il est là pour ça, quoi, pour masquer et embellir ce que j'ai, quoi. C'est important pour moi.
Alors c'est la fin de la journée. Les femmes qui ont été tatouées, dont les tatouages sont terminés, commencent tout doucement à aller devant le miroir. Et là, c'est Dominique qui est en train d'aller voir ce que ça donne.
Allez, c'est parti.
Oh, t'as fait un travail.
Je tiens le droit.
Oh bah c'est magnifique. Très très beau.
Avance-toi.
Ah ouais.
Poinerie, avance-toi aussi.
Oh, petit détail. Oh bah c'est super. Super. J'ai perdu. Très bien. Je suis... C'est génial. Tout le monde est avec moi. C'est génial.
Ah bah oui, on est avec toi. C'est le sourire qu'on veut aussi.
Ah ouais, très bien. C'est un moment...
Ouais, voilà, on voit mieux là.
C'est un moment magique là. C'est une renaissance. Un nouveau départ également. Et clôturer ce chapitre et ne pas voir que mes cicatrices. Et merci beaucoup hein, parce que c'est extraordinaire. Et donc c'est... Merci beaucoup. Merci
ça,
beaucoup.
Je le tiens
pas. La France tatouée, c'était un reportage d'Aurélien Colli, prise de son Nicolas Mathias et Frédéric Quérou, réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Delphine Baudet. Cette émission est d'ores et déjà disponible à la réécoute sur le site de France Inter.